Chapitre 5e. Le marquis donne son pouce. Blanche demandait encore pardon de sa fuite, du chagrin qu'elle causait à ses vieux parents. Elle donnait l'explication de son départ, de sa fuite. « Nous nous aimons depuis longtemps, depuis toujours, Charles et moi, et nous savions cependant que notre mariage ne pouvait se faire. Tant que notre amour fut caché, ignoré, nous pouvions vivre ainsi. Mais voici que notre faute n'aurait pu être dissimulée plus longtemps. Je vais être mère. Alors nous avons pris, Charles et moi, cette résolution, pénible pour nous, pour tous, de quitter la France. Ici, nous pourrons nous marier, faire pénir notre amour, et quand le temps viendra du retour, quand il nous sera possible de revenir, nous n'aurons qu'à faire ratifier, légaliser, selon la loi française, notre union. Et puis, nous trouverons ici de plus grandes facilités de vivre. Nous allons avoir le moyen de travailler, de gagner notre existence et de refaire notre vie, de mériter votre pardon. J'espère que vous oublierez la peine que je vous cause et que vous me rendrez votre entière affection. » Le vieillard, les larmes aux yeux, replia la lettre. « Voilà, dit-il, ce qu'elle contient. Vous le voyez, pas un mot du drame. Vraiment, ils n'en ont pas connaissance. Il faut le croire. Car il est impossible que Blanche m'écrive, en somme, une lettre aussi bonne, aussi tendre, aussi affectueuse, aussi claire et simple. Si elle avait l'angoisse de ce malheur, elle n'aurait pu cacher son chagrin, la douleur qu'éprouverait forcément Charles. Voyons, c'est logique, n'est-ce pas ? Et comme Martin Humain ne répondait rien, le père Morisson, devinant la pensée que n'osait révéler le policier, ajouta vivement « Non, non, Blanche ne sait rien, sa lettre est sincère, je connais ma fille. Elle écrit avec son cœur, c'est sa pensée, c'est tout elle qui est dans cette lettre, elle n'a rien de caché, elle ne veut pas nous donner le change, elle ne sait rien. » Charles ne lui a peut-être rien dit. « Mais Charles n'en sait rien lui-même, croyez-vous, j'en suis certain. Charles, mais je le connais comme je connais ma fille. Songez, monsieur, que j'ai vu grandir cet enfant. » Que je l'ai pour ainsi dire élevé comme mon fils, qu'il était chez moi presque autant que chez lui. Voyez, il m'a enlevé ma fille, et cependant, je le connais si bien, j'aime tant ce malheureux, que si paradoxal, si grotesque peut-être que cela puisse paraître aux yeux d'autres que vous, je ne lui en veux pas pour cet acte, je ne lui garde pas rancune, je ne lui retire pas mon affection, je considère le fait comme fatal, inéluctable, je dis le mot forcé, tout naturel, et je pardonne. Et ma pauvre femme, désolée, pardonne aussi. Ses enfants s'aimaient. » Le vieux Morisson essuya ses yeux et reprit. « Certes, ma femme et moi, nous ne soupçonnions pas que l'affection que de tout temps Charles et Blanche ressentaient l'un pour l'autre fût de l'amour. Nous avons cru qu'ils s'aimaient comme frères et sœurs, car jamais nous n'avons pensé que le fils du richissime banquier Castanier pût devenir le mari de la fille du pauvre caissier Morisson. Nous n'avons pas fait ce rêve. Cela nous semblait impossible. » Connaissant le caractère du banquier et l'orgueil de Madame Castanier, qui n'aurait jamais voulu que son fils épousât la fille d'un des employés de la maison. Blanche Morisson, un professeur de musique. Ce qui est arrivé à notre insu. Ce fut une douloureuse révélation pour nous. « Je comprends, » fit Martin Humain, « et personne ne peut vous en rendre responsable. Certes, Charles était un garçon sujet à caution, qui mieux que moi peut le savoir. Il a fait des folies, des fautes, je l'avoue. Mais entre nous, n'était-il pas quelque peu excusable, après cette éducation ridicule et anormale que lui infligèrent ses parents? Voilà un garçon à qui on donne le goût, les besoins, les habitudes de fils de millionnaire, qu'on lance dans ce monde spécial des fils à papa et à qui on refuse tout argent. Son père voulait qu'il demeurât ici au bureau et gagnât comme un simple employé ses quelques 100 francs par mois. C'était folie grotesque. Alors qu'a fait Charles? Entraîné, il a joué, il a perdu. Il a mené cette vie de luxe et de plaisir, d'oisiveté coûteuse pour laquelle on l'avait dressé. Dame, l'argent était rare dans sa poche, il s'en est procuré. Comment ? En volant les diamants de sa mère. Oh, il était bien jeune, lycéen, quand il a commis ce vol. Il promettait. Mais il n'a pas tenu dans ce sens mauvais. Et vivement, Morisson ajouta, « Ah, si vous aviez connu la sévérité souvent injuste et implacable du père, vous l'excuseriez presque. Si je vous disais que souvent moi, j'ai dû donner à ce garçon en cachette quelque argent pour que collégien ou étudiant, il peut faire figure à côté de ses camarades. Son père lui refusait un sou de plus que la pension ridicule qu'il lui fixait par mois. Il lui remettait tous les premiers juste de quoi payer ses tramways pour se rendre à la faculté, sous prétexte de lui enlever le moyen d'aller au café et de lui faire mieux connaître la valeur de l'argent, de lui donner le goût d'en gagner plus tard. C'était stupide. Je me suis chamaillé 1000 fois avec Castanier à ce sujet, mais il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison. Cet homme, quand il s'agissait d'argent, avait un cerveau plus dur que la porte d'acier de son coffre-fort. En somme, vous excuseriez presque Charles Castanier d'avoir volé et assassiné son père. Le vieux Morisson s'écria nerveusement. « Mais il ne l'a pas tué !» Mais Charles, malgré ses défauts, n'est pas capable de commettre un pareil crime, de se rendre coupable d'une telle infamie. Cependant, les précédents fâcheux, les besoins d'argent... Qu'importe ! Charles, je vous le répète, est un être léger, sans grande volonté, faible. Mais c'est un garçon de cœur, qui a besoin d'affection, de tendresse. Or, il ne trouvait rien de cela chez lui. Il me semble que sa mère le chérissait, au contraire, et que ses sœurs... Allons donc ! Faisons exception pour Mademoiselle Jeanne. Oh, celle-là est en dehors de la famille. Jeanne, c'est une goutte de ciel tombée dans une mare. Mais sa mère donnait l'aumône à Charles et le lui faisait sentir comme un pauvre mendiant, non un fils. Son orgueil lui bouche les yeux, lui étouffe le cœur. Tout ce qui n'est pas noble, titré ou galonné ne trouve aucune grâce à ses yeux. Elle ne pardonnait pas à son fils de n'avoir ni galon ni poste officiel, de même que le père lui gardait rancune de n'avoir pas pris dans ses bureaux la place de commis. Donc, ce pauvre garçon, chassé de chez lui, malheureux, s'en allait s'étourdir dans les théâtres, les cercles, sur les champs de course, où venait chez les Morisson chercher consolation, affection, encouragement et tendresse, tout ce qui lui manquait chez lui. Je vous le dis, monsieur, je vous le répète, Charles, quelle qu'ait été la sévérité de son père envers lui, n'a pu aller jusqu'au crime. Non, non. Malgré toutes les présomptions, non, mille fois non. Le vieux Morisson épongea cette fois son front ruisselant de sueur, car il s'échauffait dans cette défense de Charles. Puis, plus doucement, il reprit. « D'ailleurs, vous l'avez entendu, dans sa lettre, ma fille dit, nous travaillerons. Or, si Charles avait emporté de l'argent, Blanche en aurait eu connaissance, elle l'aurait vu. Or, monsieur, je connais ma fille. Malgré tout son amour pour Charles, elle ne serait pas restée une seconde avec lui, sachant de quelle façon il s'était procuré cet argent. Elle ne le sait peut-être pas. Elle ne dirait pas « Nous travaillerons, nous allons refaire notre vie, gagner votre pardon. » Ils vont travailler, donc ils n'ont pas d'argent. Donc Charles n'a pu voler, n'a pu commettre cet odieux crime. Martin Huma gardait le silence, comme s'il réfléchissait, comme s'il pensait à tout ce qu'il venait d'entendre. Puis il dit enfin « Voulez-vous me confier l'enveloppe de la lettre de Mademoiselle Blanche ? L'enveloppe seulement. Dans quel but ?» demanda encore le vieux caissier, tout en remettant toutefois l'enveloppe à Martin Huma. Pour faire rechercher non seulement l'état où se trouvent les deux fugitifs, non seulement la ville, ce qui sera en somme assez facile à trouver, mais le bureau de poste. Partant, le quartier et enfin la rue et la maison où il se trouve. Vous voulez procéder à l'arrestation de Charles ? Je ne sais encore. Comment ? Cela dépend. Dépend de quoi ? Du pouce. Le vieux Morisson sursauta. De quel pouce ? Demanda-t-il avec angoisse. Du pouce de Charles Castanier. Comment ? Vous supposez, vous croyez, malgré tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez encore penser que Charles... Lentement, tout en remettant dans sa poche le portefeuille dans lequel il avait enfermé l'enveloppe, Martin Huma déclara. Après la fuite de Charles Castanier, je me suis rendu chez lui dans sa garçonnière, son appartement, si vous préférez, de la rue d'Amsterdam. Dans cet appartement, j'ai découvert une paire de gants quelque peu usagés, donc ayant pris la forme de la main de leur propriétaire, Charles Castanier. Et alors ? J'ai fait couler du plâtre à modeler dans ses gants. J'en ai retiré une main parfaite, complète, qui, sauf les sinuosités, les lignes, est exactement celle de Charles Castanier. Et puis, parlez, vous me mettez au supplice, et puis cette main. J'ai mensuré le pouce de cette main et l'empreinte laissée sur le bloc-notes qui se trouvait ici, sur le bureau du banquier, à côté du cadavre d'Irma Castanier. Et le pouce offre la dimension exacte de l'empreinte. Cette fois, le vieux caissier s'abattit dans son fauteuil, anéanti. « Mon Dieu » murmura-t-il, désespéré. « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Martin Huma, cependant, se sentit ému devant cette profonde douleur. Il reprit. « Rassurez-vous, monsieur Morisson, je ne suis pas venu ici pour vous accabler, doubler votre douleur et provoquer votre désespoir. Écoutez-moi. Cette coïncidence de la dimension du pouce de Charles Castanier avec la surface de l'empreinte sanglante, n'est pas une preuve définitive, établissant sans appel la culpabilité de Charles Castanier. La dimension du pouce n'est en effet qu'un article, dans la constatation que j'opère. Il m'en faut un autre, beaucoup plus important et décisif celui-là, la concordance des lignes, des sinuosités, des méandres du pouce. Oui, je sais, je vous l'ai entendu expliquer, mais comment allez-vous pouvoir établir cela?
Grâce à vous.
À moi?
Oui, vous, qui m'avez fourni cette enveloppe.
Ce document va me permettre de faire rechercher et trouver, soyez-en certain, sous peu Charles Castanier.
Vous l'arrêterez?
Je n'en ai pas le droit, et encore moins le désir.
Alors,
je ferai tout bonnement prendre l'empreinte de son pouce par un confrère américain. On me l'enverra, et je la comparerai à celle que nous avons trouvée ici. J'espère que ces deux empreintes ne coïncideront pas.
Une voix dans le fond de la pièce se fit entendre.
Je l'espère également.
Martin Huma vivement se retourna.
Le marquis Primo di Carmine Santucci se trouvait dans le bureau.
Il s'avança, ayant sur les lèvres un sourire dont la malice n'échappa point au coup d'œil de Martin Huma.
Je vous demande pardon, messieurs, d'être entré sans avoir bien compris votre autorisation. J'ai frappé, puis j'ai cru entendre entrer. Mais à votre surprise, en me voyant paraître, je me rends compte que vous n'avez pas perçu mes coups à la porte et que je suis indiscret.
« Mais nullement, nullement, » dit le caissier, quelque peu contrarié.
« D'ailleurs, j'allais me retirer, » fit Martin Huma. Le marquis avait, avec une bonne grâce affectée, tendu la main au caissier et au détective, puis il dit, après quelques mots de compliment,
« Mon indiscrétion involontaire m'a permis, messieurs, d'apprendre quelque chose qui est on ne peut plus doux à mon cœur. » Et se tournant vers Martin Huma, « Vous espérez donc, monsieur, grâce à ces empreintes du pouce, établir l'innocence de ce malheureux Charles ?»«
Je l'espère, en effet, » répondit Martin Huma.
Le marquis demanda, « Vous croyez donc vraiment à l'efficacité, à l'infaillibilité de ce moyen ?»«
J'y crois absolument. » »«
Il paraît, en effet, on m'a dit, que vous possédiez une collection remarquable d'empreintes de doigts, de pouces, spécialement, est-ce vrai ?»«
On ne vous a pas menti. »
Vous avez classé ces pouces par catégorie, espèce, genre, comme les plantes d'un herbier, les insectes dans les vitrines d'un collectionneur.
Rien de plus exact. Ce doit être intéressant.
Alors, riant, le marquis s'écria. Je serais curieux, très curieux, c'est une fantaisie, de savoir dans quelle classe, quelle catégorie vous placeriez mon pouce.
Votre pouce?
Oui, le mien.
Vous ne faites pas collection uniquement des pouces de malfaiteurs, je suppose.
En effet. Celui d'un gentilhomme ne déparerait pas à la collection?
Je ne le crois pas.
Martin Huma eut sur les lèvres cette réplique, le vôtre surtout.
Mais il se contint et ne dit rien.
Le marquis di Carmine Santucci alors demanda, en regardant bien en face Martin Huma,
voulez-vous l'empreinte de mon pouce?
Très calme, le détective s'inclina. Si vous voulez me la confier, j'en serais enchanté.
Comment faut-il faire, avec de l'encre?
Non, l'encre bave. Attendez.
« Je vais frotter ce crayon sur le dos de ce gros papier. Voici. Maintenant, promenez sur ce noir de crayon votre pouce comme un tampon, et appuyez ensuite votre pouce noirci sur une feuille de papier blanc. »
Le marquis fit ce que lui indiquait le détective, puis élevant son pouce noirci, il chercha du regard un papier. Apercevant le bloc-note, il s'écria
« Ah, voici qui fera l'affaire !»
Et il appuya son pouce sur le bloc-note.
« Est-ce bien comme cela ?» demanda le marquis.
« Parfait. » « Voulez-vous que je signe également cette fiche, pour le cas où vous vous occuperiez aussi de graphologie ?»«
Avec plaisir. »
Le marquis signa la fiche et la tendant à Martin Huma.
« Voilà, vous me direz dans quelle catégorie vous placez mon pouce. »
Martin Huma, comme se prêtant à cette fantaisie, dit en riant,
« Mais si dans mes fiches de criminel, je trouve une empreinte qui corresponde à la vôtre,
vous m'arrêterez ?»
Martin Huma s'inclina et dit d'un air mi-sérieux, mi-rieur, en serrant la fiche précieusement,
« J'userai de votre permission. »
Il salua, prit la main que lui tendait encore le marquis, et accompagné par le père Morisson, il quitta le bureau.
Dans la cour de l'hôtel se tenait un taxi.
Martin Huma sauta dedans, ferma la portière, et se tenant dans le fond, se laissa emporter. C'était sa voiture. Elle le mena rapidement au père Lachaise, où depuis quelques minutes seulement je me tenais, regardant le monument de Bartholomé aux morts.
« Le capitaine vient d'arriver, » dis-je à mon ami.
« Bon, allons, nous arrivons à temps. J'ai craint que le marquis Primo di Carmine Santucci ne se trouve là, mais j'ai la certitude qu'il ne viendra pas.
Tant mieux.
Allons, mon cher Courville, allons vers l'idylle. Ça fait du bien au cœur de voir des amoureux. »